Voilà, alors ce matin, je me dis que on pourrait aborder un passage qui montre combien nos circonstances révèlent nos cœurs. Et en fait, ce n'est pas tellement les circonstances qui révèlent nos cœurs, c'est la gestion des circonstances, la manière dont elles révèlent nos cœurs. On se lève le matin et on se plaint qu'il fait trop froid, trop humide, trop chaud. On se plaint de son travail ou on se plaint de l'avoir perdu. On se plaint de ses voisins ou on se plaint de plein de choses, n'est-ce pas? Et je sais que je viens d'un pays expert dans la complainte. Nous, les Français, revendiquons le prix Nobel de la complainte. Je crois que savoir qu'en Suisse, cela n'existe pas. Les gens sont absolument dans une attitude paisible, non revendicatrice. Et donc, je vous propose d'avoir manifesté un petit peu de tonus en la matière, qu'il y ait un peu de compétition entre la France et la Suisse pour rendre les choses un petit peu plus piquante sur ce domaine. Et bien entendu, les complaintes que nous pouvons avoir ici et que je viens de citer sont très minimes, n'est-ce pas? Comment oser parler de ça? Cette semaine, j'ai reçu un mail d'un pasteur de notre église qui disait que Boko Haram avait pris une femme de l'église. Je n'ose pas imaginer les complaintes et les lamentations qui sortent de son cœur. Les autres prisonniers ont été libérés, mais elle n'a pas été libérée parce qu'elle refuse de renier Jésus-Christ. Des complaintes un peu différentes, n'est-ce pas? Et nous sommes sur des situations de vie qui parfois titillent ou pointent du doigt ce qui se passe dans notre cœur. Et notre vie sur terre est faite de tensions et de difficultés, de souffrances et de déceptions comme de bonheur magnifique. Comme le souligne Richard Bockham, qui est spécialiste du Nouveau Testament et professeur émérite à l'université de St. Andrews en Écosse, il écrit « Nous sommes toujours en transition de l'ancien vers le nouveau, vivant dans une tension eschatologique entre le déjà et le pas encore. Nous sommes sauvés et pourtant nous attendons encore le salut. Dans le présent de l'existence chrétienne, nous continuons donc à connaître le combat entre la chair et l'esprit, Galates 5. La lutte intérieure entre la nature que nous devons au premier Adam et la nouvelle nature que nous devons au dernier Adam. Nous attendons toujours la rédemption de notre corps au jour de la résurrection, Romains 8, 1 Corinthiens 15, et la perfection reste un but vers lequel nous tendons. La tension entre le déjà et le pas encore est une réalité existentielle de la vie chrétienne. » Vous seriez d'accord avec ça? Les pieds sur le sol, les yeux rivés au ciel, parfois criant que ton règne vienne. Nous allons retrouver Israël dans cette tension, ou plutôt au milieu de cette tension. Israël qui a été libéré d'Égypte, alléluia, mais qui est dans le désert. Ah. Israël qui a été libéré d'Égypte, mais qui va vers la terre promise, mais qui n'y est pas encore. Et je vous invite à lire Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Nombre 21 à partir du verset 4. Où nous allons voir ce peuple partir ou cheminer dans une période assez stérile de sa vie. Il s'agit d'Israël. Partir du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent regardait le serpent en bronze et avait la vie sauve. C'était la parole de Dieu. Quelques remarques que je livre à votre réflexion et à votre perspective pour souligner que finalement, nos plaintes dévoilent nos cœurs que Dieu peut guérir si nous regardons à Christ avec confiance. Alors le premier passage assez facile à identifier, c'est que le peuple se plaint. Nous sommes devant son gémissement. Verset 4, « Ils partirent de la montagne, ils sont dans le désert », un mot qui est utilisé plus de 48 fois dans le livre des Nombres. Ça désigne bien sûr cette terre stérile où la végétation est rare en raison du peu de précipitations. Et si vous avez déjà parcouru des déserts, vous savez à quel point ça peut être à la fois magnifique et oppressant. Aucune vie, et c'est toujours surprenant de voir des petites pousses, des petites choses, mais ça reste tellement, tellement petit. Nous sommes vraisemblablement là, la 40e année après l'Exode, on est autour de 1400 avant Jésus-Christ, 40 années dans le désert, la même nourriture, jour après jour après jour, la même nourriture. J'ai des amis africains qui sont venus aux États-Unis. Et ils venaient de Centrafrique, c'était des pygmées de Centrafrique qui avaient découvert la foi. Des âmes exceptionnelles, remplies de la joie de Christ, joyeux, etc. Mais il y avait une chose qu'ils avaient du mal à vivre aux États-Unis. Non, c'était pas le Coca-Cola, c'était l'absence de boule. Cette substance qui est une sorte de mille pressé et puis cuit à l'eau, qui est insipide pour un occidental, mais qui est leur croissant. Et l'absence de cette nourriture qu'ils prennent chaque jour était vraiment difficile. Et c'était amusant parce que pour moi, je me disais, ah, c'est bien, ils vont voir d'autres choses. Non, ils voulaient revenir à ce qu'ils connaissaient. Et là, on est en sorte dans une situation inverse. Les Israélites sont dans une nourriture qui est la même jour après jour après jour. Et cette routine commence à rendre le voyage insupportable. Surtout que il y avait eu une intransigeance de la part d'Édom qui leur interdisait le passage et cela avait prolongé leur marche. C'est-à-dire que plutôt que de pouvoir traverser Édom, ils étaient obligés de le contourner et finalement c'était un fardeau encore plus lourd et ça leur rappelait les vrais aliments d'Égypte. L'ail, l'oignon, toutes ces belles choses qui donnent de la saveur aux aliments. L'odeur des barbecues, c'était terminé. Et donc, ils se mettent à se plaindre de la manne. Mais d'une manière aggravée par rapport aux autres plaintes que nous voyons dans les ancêtres, manifestées par leurs ancêtres. Ce n'est pas simplement la monotonie, mais le pain que Dieu donne est ici qualifié de misérable, de léger et de maudit. Et finalement, c'est tout le contraste que nous avons entre ce que le psaume 78 nous dit, que c'est du blé du ciel, cette manne. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, en Exode 16, alors que Dieu sortait justement d'Égypte et sans provision, et ça va être un long voyage, tous les jours, 6 jours par semaine, Dieu faisait un miracle extraordinaire. Il se déposait avec la rosée, une sorte de pain qui avait le goût de coriandre, on ne sait pas trop exactement à quoi il ressemblait ce pain, et on pouvait le ramasser, et on y avait suffisamment pour la journée, et c'était suffisant pour se rassasier. Tous les jours, et le sixième jour, il y en avait 2 fois plus pour faire des provisions pour le lendemain, parce que le lendemain, jour de sabbat, c'était inutile de travailler, enfin c'était inutile, c'était interdit de travailler. Et donc il y a cette magnifique provision de Dieu à l'égard de son peuple, mais cette provision de Dieu, au bout d'un certain temps, elle est considérée comme non miraculeuse, comme presque malveillante. Et on note la progression dans le cœur dans le texte que nous avons lu, n'est-ce pas? D'abord, il y a de l'impatience, la volonté de jouir des promesses avant l'heure. Ils voudraient déjà être dans la terre promise. Il y a aussi le mépris de la délivrance d'où ils viennent. Pourquoi être sorti d'Égypte? Alors que dans l'Égypte, c'était quoi? L'esclavage. Et donc, ce regard en arrière était coloré. C'était pas bien l'Égypte, mais soudainement, ça devient bien l'Égypte. Et puis, il y a un refus de reconnaissance des soins de Dieu. Pas de pain et pas d'eau. Ben non, c'est pas vrai. Personne ne peut vivre sans pain et sans eau. En fait, Dieu a donné du pain et de l'eau tout au long de leur périple. Et puis, leur évaluation, finalement, ce pain est misérable. Alors, quand je lis ce passage, je me dis, je suis content d'être en 2026 maintenant, en France ou en Suisse, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment j'aurais vécu 40 années dans le désert avec la même nourriture. Et je crains que je me serais assez spontanément associé aux Français de l'expédition qui se seraient mis à se plaindre. Parce qu'une année dans le désert, c'est compliqué. 5 ans, plus compliqué encore. 10, 15, 20, 25, 30, 35, c'est long. C'est long. Il faut se représenter ce peuple qui chaque jour, enfin chaque semaine, fait les mêmes choses. Il y a des gens qui avaient pour responsabilité, comme certains ici ce matin sont venus tôt pour installer la sono, répéter les chants. Ben, il y avait assigné à chaque tribu un travail particulier à faire, enlever la couverture, mettre le pilier, parce qu'il y avait le tabernacle qui les suivait, il y avait tout ça. Il y avait une monotonie des gestes, une monotonie de la nourriture. Et on comprend finalement un peu l'état de leur âme, non? Je veux dire, je ne veux pas leur jeter une pierre en fait, parce que je serais vraiment hypocrite. J'ai été, je suis cet Israélite qui se plaint. Et alors, en même temps, c'est quand même intéressant d'observer que les 2/3 des psaumes sont des psaumes de lamentation. Et donc je me dis, il doit y avoir une manière de se plaindre qui est correcte, et il doit y avoir une manière de se plaindre qui est incorrecte. Peut-être j'ai tort et vous pouvez me reprendre à la fin du message, hein, la Bible seule a raison, mais je vous suggère qu'entre la complainte et le gémissement, il y a juste un geste de différenciation. C'est ce geste-là. Ce geste qui ne lève pas les mains en disant « Seigneur, c'est dur, mais sois ma vie, je crois en tes promesses. Seigneur, je hurle la douleur et la souffrance qui est mienne, mais je regarde à toi, source de vie. Le paradis arrive, Jésus-Christ revient, son esprit nous est donné. Nous sommes sortis de l'esclavagisme et nous sommes en chemin, sculptés par la personne de Dieu. » La lamentation qui invite le regard et le secours de Dieu n'est pas le gémissement qui s'attaque à Dieu et qui accuse Dieu. Et ça, c'est une question de cœur. Alors Dieu envoie son jugement. Il est dur, ce jugement. Combien de Français resteraient vivants si Dieu envoyait des serpents brûlants pour tous ceux qui se plaignent comme ceci de la providence de Dieu ? Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et on retrouve un cycle de péché et de jugement qui est assez fréquent dans le livre des Nombres. Finalement, ces hommes rejettent ce qui vient du ciel et ils reçoivent ce qui vient du désert, les serpents. Ce n'est pas très agréable des serpents en réalité. Mon fils a vécu en Californie une année, nous aussi d'ailleurs, et là-bas il y a des serpents qui, tout petits, tout gentils, tout mignons, qui lorsqu'ils mordent font une nécrose globale d'un membre et la personne peut mourir assez vite. Il a déménagé à cause des serpents en Alaska où il n'y a pas de serpents, il n'y a que des ours et d'autres types de dangers. Un jour j'étais en Afrique et j'étais dans la maison d'un collègue et puis on a mangé, on finissait la journée, on était heureux d'être ensemble et puis je sors de sa maison pour rejoindre ma maison, il fait noir bien sûr, pas d'électricité, à peu près 300-400 mètres à parcourir pour aller dans là où je dormais. Et alors que je sors de la maison, il me dit « Ah Florent, attention, on a tué des serpents ces derniers jours ». Il dit ça à moi, un occidental qui marche presque la plupart du temps au gré des feux rouges et des feux verts de la ville, dans une trajectoire bien balisée. « Fais attention, on a tué des serpents ». Alors moi, j'avais ma lampe de poche, fais attention, ok. Donc j'éclairais les 3-4 cm² où je pouvais mettre un pied, puis je mettais mon pied. Ensuite, à gauche, j'éclairais les 3-4 cm² où je pouvais mettre un pied, je mettais un pied. Et mes collègues africains, mais ils étaient morts de rire. Et ça, c'est bien le blanc aspirine là, qui rentre chez lui. Et puis le lendemain, il y a mon collègue qui vient me voir et il dit, tu sais, Florent, je t'ai vu. Mais les serpents chez nous, ils tombent des arbres aussi. Et donc le soir, je regardais en bas, je regardais en l'air. Au moins, je suis un sujet de joie et ils ne gémissent pas trop de moi. Et ici, le jugement se manifeste par des serpents, un animal impur par excellence, bien sûr, Genèse chapitre 3, bien sûr, les régulations lévitiques, et il cause des brûlures, le venin est douloureux, et je me suis intéressé pour la préparation de ce message à regarder tous les types de venin que vous connaissez, n'est-ce pas, au Togo, dans cet hôpital. Parfois, ça crée juste de l'agitation, de l'angoisse, un malaise général, des douleurs musculaires diffuses. Parfois, il y a des signes digestifs, la nausée, les vomissements, les douleurs abdominales, des diarrhées profuses. Charmant. Parfois, il y a des effets hémodynamiques, hypotension artérielle, collapsus et choc hypovolémique. Si vous avez fait médecine, vous avez traduit ce que je veux dire ici. Parfois, il y a des effets hématotoxiques, maximum au deuxième jour, avec une hémolyse aiguë intravasculaire. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, je suis juste en train de lire les notes. Mais à la fin, ça peut tuer. La mort consécutive peut venir vite, quelques minutes pour certains serpents, lentement, quelques jours pour d'autres serpents. C'est difficile de regarder le jugement de Dieu à la hauteur de ce qui semble pourtant être qu'une plainte, non ? Le Nouveau Testament nous rapporte qu'en réalité, c'était une attaque personnelle à la personne de Christ. 1 Corinthiens 10 nous dit, « Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez, nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. » Et la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Pas simplement à cause de cet épisode. En réalité, je suis souvent confronté à cette réalité. Certaines circonstances de la vie douloureuses conduisent à un choix. Celui de la rébellion qui presque porte l'accusation contre Dieu de cela. Ou bien parfois presque le désespoir qui s'abandonne à Dieu afin de trouver sa joie en lui. Chose facile à dire, n'est-ce pas ? Cette semaine à l'IBG, j'ai profité d'avoir la bibliothèque à ma disposition pour reprendre un livre qui s'intitule « Prendre plaisir en Dieu malgré tout » de Piper. Et dans un style inimitable que seul Piper peut avoir, nous lisons. Et peut-être je vais juste, avant que vous arriviez à cela, je reviendrai là-dessus, mais je vais lire le début de cette citation. « Dieu ne veut pas que nous soyons passifs, il veut que nous menions le combat de la foi, le combat pour la joie. Et la stratégie centrale consiste à prêcher l'évangile à soi-même. C'est une guerre. Satan prêche, c'est certain. Si nous restons passifs, nous lui abandonnons le terrain. » Lloyd Jones devient donc précis et sévère. « L'art principal en matière de vie spirituelle consiste à savoir comment se comporter ? Vous devez vous prendre en main, vous devez vous adresser à vous-même, vous prêcher à vous-même, vous interroger. Vous devez vous retourner contre vous-même, vous réprimander, vous condamner, vous exhorter, vous dire « Espère en Dieu » au lieu de marmonner de manière déprimée et malheureuse. » Et il cite ensuite le psaume 42 « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Et un peu plus loin, Piper écrit, « En d'autres termes, lorsque tous les soutiens de la vie humaine et du bonheur terrestre nous seront enlevés, Dieu sera notre délice, notre joie. Cette expérience est humainement impossible. Aucune personne ordinaire ne peut parler ainsi en vérité. Si Dieu seul suffit à soutenir la joie lorsque tout le reste est perdu, c'est un miracle de la grâce. » Le peuple devient conscient de cette réalité et à partir du verset 7, confesse, reconnaît sa faillite. Verset 7, le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. C'est chouette de voir ce changement d'attitude, de réaliser que le problème venait de lui. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. C'est cela la confession. Voir les choses comme Dieu les voit. Les nommer comme Dieu les voit. Les reconnaître comme Dieu les voit. Et c'est touchant parce que Moïse prie encore pour ce peuple. Et en cela, Moïse montre son désintéressement. Parce qu'il vient d'être condamné, si vous connaissez un petit peu l'histoire qui précède, il vient d'être condamné, il ne verra pas la terre promise. C'est-à-dire que Dieu a suscité Moïse pour mener son peuple en dehors d'Égypte, mais à cause d'une de ses rébellions, à lui, il ne pourra pas conduire ce peuple dans la terre. Il ira jusqu'au bord de la terre, il va conduire son peuple, et puis ensuite il va devoir se retirer. Mais quelque part, on trouve ici la qualité d'un homme qui se dit, j'en ai marre de ce peuple qui se débrouille, plutôt, même s'il ne va pas aller jusqu'au bout des choses, même s'il sait qu'il est privé de goûter certaines choses, il dit, mais je vais quand même prier pour la grâce de Dieu pour ce peuple. Et finalement, je me dis, c'est un passage qui nous encourage à valoriser la puissance de l'intercession pour les autres, n'est-ce pas? Autour de nous, il y a un monde qui est mordu par les serpents. Vraiment, il y a un monde qui est centré sur lui-même, centré sur son présent, qui n'a aucune conscience de son passé et de son futur. Et ce monde-là, il a besoin d'hommes comme Moïse, dans toutes ses imperfections, qui va intercéder, qui va être devant, qui va être celui qui pointe le chemin. Et Dieu fait grâce. Extraordinaire que notre Dieu. Même si, vous avouerez, c'est un peu surprenant, non ? Verset 8 de nouveau. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze, le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. La réponse de Dieu est surprenante, mais pédagogiquement importante pour le Nouveau Testament. Alors, quelques remarques sur ce qui s'est passé. Moïse a dû agir avec détermination, réflexion. Imaginez, hein, vous êtes au milieu du peuple, vous avez des gens qui meurent à droite et à gauche, et puis j'imagine les gens qui hurlent leur souffrance. Et puis lorsque vous avez un bien-aimé qui hurle sa souffrance, vous avez toute la famille qui hurle aussi sa souffrance. Enfin, ça devait être un terrain de guerre, cette situation. Et Moïse intercède pour le peuple, peut-être il se met à part, je ne sais pas trop exactement comment ça s'est passé, il faudra qu'on regarde sur Netflix le jour où ça sortira. Mais il prie, il intercède, et puis il faut agir vite, hein, et réaliser en plein milieu du désert un serpent en bronze. Ce n'est pas évident non plus, je me dis, enfin, si on me demandait de le faire, je ne sais pas, mais tout le monde sait que je ne suis pas bricoleur, donc peut-être Moïse, il avait des gens capables de pouvoir agir vite sur cela. Puis, il a dû être surpris de pourquoi réaliser un serpent en bronze alors que c'est un animal impur? C'est bizarre ça, non? Pourquoi réaliser aussi une image à regarder alors que, justement, dans les 10 commandements, il ne faut pas faire d'image? Tout ceci a dû vraiment circuler dans sa tête de façon assez rapide, comme un tourbillon. Mais Moïse a obéi. Moïse a obéi. Et malgré les tabous et les difficultés et le choc culturel. Alors voilà, Moïse prend le serpent en bronze, il le met sur une perche et puis il le montre au peuple. Et ceux qui voient le serpent sont guéris. Comment comprendre cela? Alors déjà, je me dis, il y a probablement eu plein de réactions. S'il y avait des Français là-bas, il y a aussi des Français juifs, je me doute. Bon, je vais arrêter, vous comprenez ce que je veux dire, c'est une mauvaise blague. Bref, je me dis qu'il y avait certaines personnes rationalistes qui ont dû se dire, mais voyons, le venin est une protéine. C'est pas en regardant un serpent en bronze que la protéine va se briser en moi. Et j'imagine ces gens rationnels qui pensent la vie de façon correcte et scientifique se sont détournés de regarder un serpent en disant, c'est inutile. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui avaient un sentiment de justice et qui se sont dit « Je suis quelqu'un de bien et je vais plutôt avoir confiance dans mes performances. Dieu va voir que moi, je ne suis pas comme les autres. » Plutôt que simplement se confier dans le fait de regarder à ce que Dieu lui-même a mis en avant. Peut-être que d'autres, sous le poids de l'autoculpabilité, se sont dit « Non, je suis indigne du secours de Dieu. Je mérite le venin. Je mérite la mort. Je m'éloigne de cette assemblée. » Ce n'est pas dans le texte, hein. Je ne sais pas comment les gens ont réagi. Mais apparemment, tous n'ont pas cru à Moïse pour bénéficier de la solution. Cette solution, en fait, elle prépare l'un des plus beaux versets du Nouveau Testament sur le salut. Parce que voyez-vous, que représente ce serpent? Il représente toute la malédiction, non? Toute la malédiction de Genèse chapitre 3, toute la malédiction du jugement de Dieu. Et savez-vous qui a été élevé sur une perche? Jésus-Christ. Jésus-Christ a été élevé sur une perche, et lorsqu'il est élevé sur cette perche, Galates 3:13 nous dit qu'il est devenu malédiction pour nous. 2 Corinthiens 5:21 nous dit que Jésus est devenu péché pour nous. Pas pécheur, péché. C'est-à-dire que lorsque le Fils de Dieu est élevé, quand vous chantez et que nous chantons ce chant, hein, nous voulons voir le Fils de Dieu élevé. En fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est citer ce verset de Jean chapitre 3 où le Fils de l'homme est élevé sur un bois. Et sur ce bois, il devient péché pour nous. Sur ce bois, Dieu le Père déverse sur le Fils toute la malédiction que méritent nos péchés passés, nos péchés présents, hélas, nos péchés futurs. Et Dieu le Père frappe le Fils, qui absorbe en cela la colère du Père. Et c'est pourquoi nous avons en quelque sorte une préfiguration de ce sacrifice du Christ à la croix dans le récit de Nombre chapitre 21. En Nombre chapitre 21, ces hommes et ces femmes meurtris par le poids du péché, meurtris par le jugement de Dieu, ont une solution magnifique, gratuite, bienveillante, pleine de grâce. Dieu manifeste son secours en envoyant comme une éponge. Ah oui, le serpent qui vient mourir, le serpent sur la perche ou sur un morceau de bois, c'est comme une éponge qui absorbe le venin, absorbe le jugement, absorbe la condamnation. C'est cela qui se trame en Nombre chapitre 21. C'est cela qui se trame, qui se joue, qui se vit et qui ensuite devient réalisé en Christ. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus est élevé en tant que malédiction, recevant la malédiction de l'humanité. Et c'est suite à ce verset que nous avons ce bien-aimé verset des évangéliques. Vous connaissez, car Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais plus comment ça fait ensuite. Et on a exactement ce rapport entre l'histoire de Nombre 21 et Jean chapitre 3. Qu'est-ce que ça veut dire « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle » C'est réaliser que nous sommes au mérite ou dans le mérite d'un jugement et réaliser que ce jugement, Christ l'a porté. Et peut-être que l'application principale et majeure consiste à réaliser que dans notre chemin de vie, nous avons besoin de regarder à Jésus, de regarder à Jésus, de regarder à Jésus. Dans nos chemins tordus où parfois nous trébuchons, nous avons besoin de regarder à Jésus, de regarder à Jésus, de regarder à Jésus. Et un jour, il reviendra, et 1 Jean chapitre 2, 28 à 3, 2 nous dit que lorsque nous le verrons, nous serons et deviendrons comme lui il est. Enfin sortis du désert. Enfin sortis de cette tension entre le déjà et le pas encore. Déjà je suis sauvé, mais hélas, c'est comme si j'avais des ceintures qui me rappelaient le monde de l'Égypte. Déjà je suis sauvé, mais pas encore sauvé. Déjà je suis justifié, mais pas encore juste. Je suis déclaré juste, mais pas encore juste, etc., etc. Et bien sûr, si cette application principale et majeure doit demeurer dans nos cœurs, il y a quelques petites morales de cette histoire sur lesquelles j'aimerais terminer. Le cycle rédemption, difficulté, restauration est vraiment une belle image de la vie chrétienne. On devrait apprendre de ces histoires de l'Ancien Testament et on devrait le réaliser combien c'est notre chemin parfois qui se vit dans cela. Deuxièmement, les difficultés sont l'occasion de puiser en Christ les ressources pour vivre, puis je vais ajouter pour survivre parfois. Et là, je ne sais pas dans quel état de cœur on peut être les uns et les autres, certains accablés par des circonstances tragiques, de maladies, de pertes, de pressions, de difficultés, de... Mais en lien avec le pain qui nous est donné, nous avons ce verset de Deutéronome 8 que Jésus va citer dans le désert lorsque le diable le tente. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais ses commandements, oui ou non ? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, j'aimerais pouvoir vous dire que je sais exactement comment vivre ce verset parfaitement. Et là, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a une forme, en quelque sorte, de combat et de lutte pour se dire que Christ est suffisant, comme on l'a chanté tout à l'heure. Jésus suffit. Oui, mais la manne, 30 ans, 40 ans, c'est long. Et néanmoins, Dieu veut venir à notre secours dans les combats qui sont les nôtres pour faire paraître à nos cœurs et à nos pensées, qu'il est suffisant. Le dernier point, le contentement n'est pas une vertu minime. Il y a un livre qui traîne dans mon bureau, qui s'intitule Contentment, la couronne ou le joyau d'une couronne, je ne sais plus. J'ai lu l'introduction et je me suis dit, je le lirai quand je serai grand. Parce qu'il parle du contentement comme quelque chose qui est l'ultime manifestation de la sagesse et de la maturité chrétienne. Et moi, je dois reconnaître que j'ai les pieds vite dans le désert à me plaindre de la providence de Dieu. Même si, en réalité, je dois trouver, et nous sommes invités à trouver en Christ cette satisfaction. Une journée sans se plaindre ? En France, c'est impossible. Mais voilà ce que dit Colossiens 3,15. Que la paix du Christ à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. 1 Thessaloniciens 5,18. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus.